Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Bonjour les devs. Salut Alex, comment ça va?
Écoute, salut Patrick, salut tout le monde, ça va bien. La saison de ski continue, donc c'est cool. Ouais. Et on revient sur cette RC2, donc la Candidate Release, deuxième version du mois de mars, avec l'actualité où on va parler de TypeScript, où il y a une petite fusion avec du Go, je crois. On va parler de synchronisation de DB, on va parler évidemment d'IA, on va parler du nouvel acronyme qu'on voit partout, MCP, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Donc on va aborder un peu tout ça sur cet nouvel épisode de Double Slash. Mais juste avant de commencer, on pourrait déjà remercier tous ceux qui nous sponsorisent via le GitHub sponsor qu'on a mis en place. Il y a des gens qui nous donnent one shot, il y a des gens qui nous donnent tous les mois. Un grand merci à eux, ça nous fait super plaisir que vous nous écoutiez sur YouTube ou sur Spotify ou sur votre appli de podcast préféré. Sachez que vous pouvez nous soutenir aussi. Et si vous ne pouvez pas le faire financièrement, faites-le avec un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci à vous.
Yes, merci. C'est parti.
On attaque. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une punchline qui est assez forte où on nous annonce TypeScript qui va être 10 fois plus rapide. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans un truc un peu marketing où on nous promet des trucs de ouf juste pour dire c'est juste plus rapide et ça va être mieux? Où vraiment il y a un gain significatif?
Non, c'est un vrai truc. A priori, ils ont écrit TypeScript en Go. Alors, il faut savoir que TypeScript, tu vois, j'ai fait une recherche parce que je me suis dit, mais en quoi c'est écrit TypeScript au fait? Je me suis dit, c'est peut-être en C ou un truc comme ça, tu vois, un truc un peu. Et puis, en fait, non, c'était écrit en TypeScript. En fait, TypeScript est écrit en TypeScript. C'est assez. Okay. C'est Inception. Voilà. Et du coup, ils l'ont écrit en Go. Alors, tout le monde a commencé à mettre, mais pourquoi pas en Rust? Voilà.
Bah oui,
c'est vrai, pourquoi pas en Rust? Mais. Bon, on sait pas. Je sais pas s'ils expliquent pourquoi en Go, mais en tout cas, ils ont fait toute la réécriture et d'après les premiers tests, en fait, donc la compilation de VS Code, par exemple, elle est juste 10 fois plus rapide en fait que avec cette version Go.
Impressionnant.
Donc gros gain de performance. Donc c'est vrai que pour les grosses applications, ça peut être intéressant. Ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus, ça va répondre plus vite au niveau des du typage. Et donc ça va être déployé. Ouais.
Par contre, oui. Est-ce que c'est plus rapide, pas spécialement à l'exécution, c'est au moment de ton build qui, parce que vu que ton TS en fait il va être construit, donc ta sortie, ton applicatif, elle va pas être plus rapide. C'est juste au moment de ta construction de ton application, de ton build, où là ça va être beaucoup plus rapide.
Oui, de toute façon, oui, ça va au niveau du build, même si petit à petit, il y aura de moins en moins besoin de builder, puisque c'est censé. Enfin, bun lit le TypeScript, node lit petit à petit
de
TypeScript, donc
de manière native. Ok.
Ouais, mais par contre, je connais pas le process de quand tu écris des fichiers en TypeScript. Je pense qu'à un moment donné, le fichier est compilé à la volée et puis. Peut-être analyser, tu vois, et peut-être ça va aller plus vite. Enfin, après, j'ai pas testé encore pour l'instant, mais. En tout cas, c'est plus rapide.
Ils annoncent quelque chose de beaucoup plus rapide.
Donc pour l'instant, c'est pas encore déployé et ça sera déployé totalement, je crois, fin d'année ou un truc comme ça, parce qu'ils le notent. Mais voilà, mais on peut déjà le tester et puis l'installer, etc.
Yes. Autre mise à jour un petit peu plus graphique cette fois-ci, on est dans le rebranding. Tout l'écosystème Tailwind avait explosé dû à une librairie qui s'appelait Tailwind UI et Adam Watan, qui est le créateur de Tailwind, annonce en fait via le blog qu'il rebaptise cette librairie, on pourrait dire, ou cette librairie de composants, Tailwind Plus, ça s'inscrit un peu dans l'évolution de la version 4. Bon, ils font un rebranding, ils changent le UI et ils mettent plus, quoi.
Ouais, y a rien, c'est juste un rebranding, rien de plus que ça. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de coût supplémentaire, il n'y a pas de besoin de se réinscrire ou quoi que ce soit, de repayer ou tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment du rebranding. Il n'y a pas de gros changements, en fait. Mais dans le dernier épisode, il y a un auditeur qui a mis un commentaire comme quoi on n'avait pas parlé. Alors voilà, c'est fait. On en a parlé.
On en a parlé, faut pas déconner. Merci, en tout cas, merci d'avoir laissé un commentaire et de nous dire, hé, dis donc, les gars, vous avez pas parlé de ça. Et effectivement, c'est dans, on va dire que dans l'écosystème Tailwind, c'est quand même important. Donc, très bien. Chose qui est désormais faite. Merci à lui, en tout cas.
En tout cas, là, j'ai passé des projets sur Tailwind 4.
Ah,
De zéro, hein.
intéressant. Est-ce que tu as
Ouais.
réussi à faire ta
Alors, j'ai pas.
migration? Parce
Non,
que
j'ai
la
pas réussi
dernière fois,
encore parce
tu
que
nous
j'ai plus
disais
le
que c'était
temps.
la merde quand même.
Non, j'ai pas eu le temps de me remettre dessus. Par contre, j'ai un starter theme que j'utilise qui était sur Tailwind 3. J'ai passé sur 4 et j'ai dû modifier pas mal de choses parce qu'en fait, ce système de variables là, CSS, ça change beaucoup de choses. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer des infos du fichier JavaScript. En fait, si tu suis vraiment le système avec les variables CSS, tout ça, le thème et tout ça, bah, tu ne peux plus faire comme avant, récupérer des variables, enfin rajouter des variables dans le JS, etc., dans le Tailwind.config, tout ça. Donc, ça change pas mal les choses pour. Voilà, j'ai dû faire un système qui va compiler, qui va générer un fichier CSS avec des variables dedans que je vais chercher ailleurs, etc. Tu vois, ça ne marche pas du tout de la même façon. Par contre, après, ça va nickel. Hein. C'est une fois que tu. J'ai même du. Là, je repasse sur un 3 là, en ce moment. Et ah, ben, ça. Tu vois, tu dis,
Ouais,
ah, merde,
après,
faut que je me réadapte au niveau du cerveau et tout.
Ouais, c'est toujours pareil. C'est à chaque fois que tu fais une migration, il y a une nouvelle manière de faire. Et c'est vrai que
Ouais.
parfois, ça peut amener de la friction pour passer sur cette dernière version. Et
Ouais,
souvent,
ouais.
quand on passe à la nouvelle, bon, bah, c'est complètement adopté. Je me rappelle de la version 3 avec sur Vue ou avec la composition API. Et là, tu te dis, ah, mais non, mais non, mais non. Et en fait, il y a tellement de friction au départ. Que quand tu fais l'effort, après tu dis ah ouais, en fait non, mais c'est super bien, et revenir en arrière, c'est très difficile. Mais on est dans la période où là, ça va, on bascule de l'un à l'autre, et c'est jamais agréable parce qu'on a les deux configs qui tournent un peu en même temps, et il faut qu'on fasse le switch mental à chaque fois.
Mais il y a des trucs super intéressants, tu vois. Par exemple, les variables CSS, tu peux les utiliser maintenant avec un BG tiret, tu fais des parenthèses et tu mets URL deux points et la variable en fait, sans marquer le var. Et là, du coup, si tu as une image dans une variable, en fait, ça te génère le truc et tout. C'est bien intégré en fait, les variables CSS. Je trouve ça vraiment pas mal.
Bien
Si
joué.
bien qu'au bout d'un moment, c'est justement ça, c'est tu te dis, bah, je peux pas le faire avec le 3, c'est un petit peu gênant, tu vois. Voilà, on s'habitue vite, quoi. Ouais,
Toujours,
non, c'est pas mal.
toujours. Yes, on en avait déjà parlé de
Ouais.
HTTPy, qui est. Alors, on avait fait un workshop où justement on l'utilisait pour en substitut, on va dire, aux fameuses commandes curl. Curl qu'on connaît tous dans le terminal. Il y a un autre système qui s'appelle HTTPy, mais il existe aussi une version desktop et une version web app qu'on peut directement utiliser. C'est clairement dans du même acabit que Insomnia ou Postman. Voilà, c'est
Bruno.
exactement pareil. Ou Bruno aussi, on avait parlé de Bruno.
Bruno,
C'est une autre possibilité. C'est vrai que si on utilise sur le terminal HTTPy, ça peut
oui.
résonner, et les Ricains diraient faire sens de
Faire sens.
l'utiliser
C'est
aussi.
canadien, non?
En tout cas, on voulait en parler. On voulait aussi rappeler qu'on avait abordé dans un précédent épisode quelque chose qui s'appelait HTTPy AI, et donc c'était une version amplifiée, on va dire, assistée pour aller récupérer les API plus ou moins publics. Et en fait, on écrivait notre phrase, on va dire, en français littéral, et ça allait automatiquement générer et créer la requête directement basée sur l'API qui a été plus ou moins publique. Donc ça, super, super rapide. On voit la démo, par exemple, comment récupérer des repos GitHub. On va automatiquement avoir la bonne URL avec les variables à remplir. Donc plutôt intéressant. Mais il me semble qu'on avait déjà parlé, je crois, non?
Mais il me semble que... Alors, je l'avais remis, mais je ne sais plus. Sur le doute, je l'ai mis quand même.
Ouais.
Mais vas-y, on en reparle. C'est tellement bien, quoi.
Exactement. C'est un super outil. C'est un super outil. On vous invite à aller checker. C'est,
je crois que c'était dans les apps, qu'on avait dû en parler dans l'épisode sur les apps. Mais je ne me rappelle plus. Voilà, c'est fait.
Autre nouvelle mise à jour d'un sujet aussi qu'on avait teasé un peu, où je crois que c'était en bêta, et là maintenant ils sont sortis en version 1.0, donc vraiment la version OK, ils sortent de la bêta, c'est Electric. Et Electric, comment on pourrait simplifier le truc, ça fait quoi exactement sur notre base de données?
Alors, j'ai pas lu totalement le truc, mais en partie, c'est une sorte de synchronisation de data, mais sans faire du fetch, en fait. Donc, c'est ce qu'ils expliquent beaucoup. C'est une nouvelle approche où tu, dans ton app, en fait, au lieu de faire des fetch pour aller chercher les data, elles vont se synchroniser toutes seules. Et en fait, le système, c'est ça, en fait. C'est une synchronisation entre... Alors, je sais pas exactement comment ça marche en local par rapport à la base de données en remote, mais... j'ai pas approfondi à fond, il faudrait que je teste, quoi. Mais en gros, c'est ça, c'est une synchro au lieu du fetch. Et d'ailleurs, ils opposent un petit peu les deux, le fetch contre le... Enfin, la différence entre les deux. Donc voilà, en fait, tu vas rajouter... imaginons que tu vas faire un formulaire où tu vas rajouter quelque chose, des data, et tu les envoies. Et après, tu t'occupes pas du reste, ça va automatiquement se synchroniser et ça va s'afficher dans la liste.
En gros, c'est ça le concept. Et surtout, toutes les personnes qui ont les droits sur cette table, en fait, vont recevoir les informations directement dans leur navigateur. Et donc, ça vient un peu supprimer toute cette phase d'API où, en fait, où on va envoyer de l'information, récupérer des informations. Il y a quelqu'un qui va faire une mise à jour, ça va être automatiquement synchronisé avec toute la sémantique qu'il y a sur ce qu'on appelle de l'optimistique, c'est-à-dire, OK, je t'envoie l'information, je vais t'afficher comme si la réponse était bonne, mais j'attends la réponse du serveur. Là, pour le coup, en fait, c'est vraiment un autre paradigme. Ouais. Et je pense que pour toutes les applications dites local first, c'est-à-dire qu'on va enregistrer les données directement sur la machine, que ce soit dans le navigateur ou par exemple sur un téléphone. En fait, les données vont d'abord être synchronisées sur le téléphone et après potentiellement envoyées sur le cloud ou sur un serveur distant pour aller enregistrer ces données-là, pour les synchroniser avec d'autres personnes possiblement. Ouais, moi, je suis complètement hypé et malheureusement, je n'ai pas trop le temps de tester ça en ce moment, mais ça me paraît une super techno. Par contre, je pense que c'est un shift total en termes de développement, quoi. Il n'y a plus d'API ou de mutation, de query, de tout ça. Là, en fait, tu vas uniquement synchroniser tes autorisations de ta base de données locale et distante, et c'est lui qui va faire un peu tout seul, en fait.
Ouais. Après, il y a un nouveau langage où il parle de... En fait, si on va voir dans la doc tout ça, il y a les shapes, il y a un nouveau langage. Il y a aussi... Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils s'adaptent à beaucoup de frameworks. Quand tu vas dans la doc, il y a des adaptateurs, tout ça, machin. Il y a plein d'exemples sur les différents frameworks. Donc, pour l'implémenter, il y a pas mal d'aide. Et puis, et après, il y a aussi deux... Alors, c'était marrant parce qu'hier, je m'amusais à... Il y a deux démos, là. Et j'étais sur la démo hier. Et puis, en même temps, il y avait d'autres personnes. Et ils rajoutaient les data et tu les voyais apparaître. Enfin, voilà, c'est assez marrant, quoi. Ça a l'air pas mal du tout. Mais moi aussi, j'ai bien envie de tester, là.
Ouais. Et je pense que sur des applis un peu où il y a vraiment du monde ou en local, par exemple, quand on est en montagne, il n'y a pas toujours de réseau. L'idée, ça serait d'envoyer les infos sur la base de données locale de ton téléphone. Et quand on récupère le réseau, bim, ça synchronise directement. Ça peut être super intéressant comme techno, quoi. Top.
Yeah. Ouais, c'est pas mal.
Allez, on reste sur la partie un petit peu native et téléphone avec un... Est-ce que c'est quoi? C'est un nouveau framework? C'est un nouveau manière de faire. En tout cas, c'est tout un écosystème qui a pour but de faire d'écrire une seule fois du code et de générer plusieurs applications Android, iOS et du web. Est-ce qu'on pourrait dire que ce nouveau système qui s'appelle Lynx.js, est-ce qu'on pourrait dire qu'il rentre en concurrence directe avec React Native?
Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est un framework qui a été lancé par ByteDance. ByteDance, c'est les mecs qui font TikTok. Donc, bah, c'est une grosse boîte quand même, hein. Et donc, ils ont open
Petite appli,
sourcé
ouais.
ça. Ouais. Et donc, bah oui, c'est équivalent à React Native. C'est un peu le même système avec Flutter, React Native. Donc, on a un troisième challenger. Alors, évidemment, l'écosystème est très, très nouveau, hein. On va dire qu'on n'a pas l'écosystème de React Native qui existe depuis 10 ans déjà maintenant. Donc, qui est quand même assez fourni en librairie, etc., en components et tout ce qu'on veut. Mais l'idée est plutôt pas mal. Et puis, voilà, il y a des concepts intéressants. Alors, ça fonctionne sur deux runtime, en fait. Donc, c'est du JS. Il y a
D'accord.
deux runtime. Il y a une runtime JS qui va, c'est le main thread qui va s'occuper de tout ce qui est pixel, affichage de pixels, etc. Et ensuite, un background thread qui s'occupe de tout ce qui est en background, qui n'a rien à voir avec l'affichage. Et donc, tu as deux threads séparés. Donc, déjà, le concept un petit peu nouveau, quoi, tu vois, deux runtime.
Ouais,
Donc,
et
ouais,
puis
ça a l'air franchement pas mal.
et surtout, en fait, ça te permet de concevoir nativement, en fait, de manière par design, en fait, ton framework, il est déjà câblé comme ça, où tu vas pouvoir exécuter des tâches en tâches de fond sans pour autant altérer la performance de ton appli
C'est
visuel,
ça,
quoi.
ouais.
Donc,
Ouais, c'est surtout ça. C'est ce qu'on
c'est top,
reproche
quoi.
beaucoup. Enfin, les développeurs natifs reprochent souvent la performance, etc.
Oui, bien
Voilà, par
sûr.
rapport aux modèles hybrides comme ça. Donc, ils ont fait ça. Donc, c'est relativement performant d'après ce qu'ils disez. Après, il y a des choses qui sont. Ça prend en charge le CSS par défaut. Il n'y a pas besoin de faire. Enfin, tu vois, là, tu mets des CSS normales dans tes éléments, ça marche.
OK.
Puis après, voilà, il y a des éléments qui sont, tu vois, des éléments texte, images, etc., qui sont déjà prêts, des components. Et puis, normalement, c'est framework agnostique. Donc là, ils mettent en avant les exemples avec React, tout ça, mais normalement, ça fonctionne aussi avec Vue, etc. Donc, il n'y a pas de.
Ah ouais. Ah ouais, par contre, ça peut être super intéressant parce que c'est beaucoup plus inclusif, on va dire. Et
Ouais.
ça s'inscrit toujours dans cette tendance de framework agnostique, quoi. On donne une technologie. Par contre, tu viens avec ton background. Et ce qui, pour le coup, en fait, est vachement plus facile de faire une migration sur ce type de techno-là parce que tu n'as pas à tout réécrire ou à faire l'effort d'apprendre un nouveau framework. Voilà, si tu as plutôt l'habitude d'utiliser Angular, bah, potentiellement tu vas pouvoir créer ton appli Android ou iOS avec ce système-là, quoi. Donc, intéressant. Après, ce
Après,
qu'il
ouais,
faudrait voir, c'est est-ce que
après.
tu es obligé de tout écrire dans leur système ou tu peux faire une espèce de portage. Si tu as déjà fait du web, tu viens porter pour. Tu vois,
Ouais, je sais pas.
je sais pas. À
C'est
tester.
jamais, ouais, c'est jamais simple.
Non, de toute façon, la
C'est
solution
pas aussi
magique.
simple que sur la doc,
Ouais, on est
généralement.
d'accord. Après, ce qui est sûr, c'est que ça reste, même si derrière, comme tu dis, il y a TikTok qui est quand même une grosse boîte, ça reste un framework ou en tout cas une librairie, ou en tout cas un outil plutôt récent. Donc,
Ouais.
avant de se jeter corps et âme sur un site en production, sur ce type de système, ouais, peut-être qu'il faut laisser le temps aux produits de maturer un petit peu avant de se jeter directement dessus, quoi. Mais en tout cas, c'est prometteur. Et ce qui est sûr, c'est que nous, on va garder un œil dessus pour voir comment
Grave.
ça évolue.
Carrément.
Et donc, il y a même un petit article où on
Ouais, il y en
vient.
a plein.
Ouais, où il vient expliquer tout le concept. Évidemment, tous les articles, tout ce que vous voyez, et si vous nous écoutez sur le téléphone en podcast audio, sachez que tous les liens de l'épisode, vous pouvez les retrouver évidemment sur le site internet directement de double slash podcast. Hop. Allez, petite mise à jour du framework Nuxt. Nuxt,
Petite grosse quand même.
grosse, alors
Avec pas mal de choses.
grosse évolution sur 3.16. quel est le plus gros truc selon toi?
Ah ben moi, c'est ce que je, enfin, selon moi, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que c'est l'hydratation en fait. Tout système de nouveau système d'hydratation. Donc c'est au niveau de la performance et on peut décider les components s'ils sont hydratés de suite ou plus tard ou à quel moment ou à tel événement, etc. Donc ça, enfin pour moi c'est génial parce que c'est alors on en parlait avant l'épisode, j'ai déjà oublié le nom du c'est Quick, voilà. Voilà le framework Quick qui avait ça un petit peu intégré par défaut, ou des choses qu'on peut retrouver sur Astro, voilà, des éléments qui vont être chargés, en fait tout le JavaScript va être chargé au moment où il va être visible à l'écran et pas avant. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet de délayer, comment on dit en français,
retarder
en fait le chargement de ressources qui peut être assez lourde. Et du coup, ta page est chargée rapidement et tout le reste, il est chargé uniquement quand il est visible ou quand il y a un événement. Donc c'est un gain de performance énorme. Et ça, on peut le gérer avec ce nouveau système de components lazy, machin, tout ça. Donc,
ouais. Alors, on pouvait déjà le faire avec, par exemple, on mettait du v-if et la condition, c'était que ça soit dans le viewport ou les choses comme ça. Sauf que là, maintenant, en fait, c'est intégré de manière native. Et donc, c'est le framework qui gère ça. Donc, tu n'as pas à coder un espèce de surcouche pour implémenter ça. Et on se rappelle que on pouvait déjà faire du lazy. On mettait lazy. Et derrière, on mettait la condition pour que ça se déclenche. Là, c'est totalement intégré. C'est beaucoup plus visible et facile. On a plein de possibilités. Clairement, c'est une source qui est... Là, on parle bien, par contre, d'hydratation, de non pas des données, mais bien des composants.
Ouais.
C'est les composants. Et donc, à l'intérieur de ces composants, si on doit faire appel à des données... Bah, si le composant n'est pas chargé, de toute façon, il ne va pas appeler les données. Mais en tout cas, c'est top. Ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Et je pense que en termes de rapidité d'exécution, après, au niveau pour les utilisateurs finaux, je pense que c'est un vrai gain. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de se plonger dans ce système-là pour aller chercher de la perf, quoi, vraiment.
Ah mais c'est primordial. Enfin, je veux dire, si tu l'utilises pas, c'est dommage parce que ça permet vraiment de gagner en perf. Finalement, c'est pas très compliqué. Et comme on en discutait tout à l'heure, ce serait des formulaires que tu as en bas de page ou des choses comme ça, qui sont peut-être jamais vus par le mec qui va charger la page. Ça sert à rien de charger toute la ressource de ce formulaire alors qu'il est jamais vu, tu vois. Donc c'est un truc que tu peux hydrater plus tard. En fait. Donc ça, c'est un exemple. Mais il y en a plein comme ça où tu peux vraiment gagner du voilà. Et c'est du poids en moins aussi chargé et c'est un côté écologique.
Moi je m'occupe quand même surtout de l'utilisateur, quoi. C'est je prends toujours l'exemple un peu, alors c'est un peu méchant et un peu facile, mais je charge l'intégralité de mon site WordPress pour afficher une seule page, la page de login, quoi. Tu vois. Je taquine. Dans l'idée, même si aujourd'hui beaucoup donc Next, tout ça viennent faire en fait du tree shaking où ça vient découper en fait toutes tes pages et ces pages sont chargées au fur et à mesure. Et là, en fait, avec cette nouvelle technique, on a un niveau de granulométrie encore plus élevé où, au sein de la page, on peut découper les composants pour justement, en fait, les charger au fur et à mesure de la navigation. Ce qui fait que la première impression, waouh, c'est super rapide, quoi. Donc, c'est bien. Et surtout, on n'affiche pas l'intégralité du site pour consulter qu'une seule page, quoi. Donc, top. Ça, c'est le debug. Je t'avoue, ça, c'est top. Même si aujourd'hui, sur Nuxt, le DevTools native de Nuxt est vraiment super bien fait. Ça nous permet de voir tous les états, les states, les payloads, qu'est-ce que j'ai chargé, qu'est-ce que j'ai pas chargé. Est-ce que c'est vraiment top? Est-ce que le module est bien chargé, le module n'est pas chargé, le plugin est chargé, le plugin n'est pas chargé. Et là, en fait, ils viennent nous donner encore accès à encore plus de features de debug. Et donc, topissime. Topissime. Et
ça me fait penser, il y a une nouvelle. J'ai oublié son nom. Comment c'est son nom, son pseudo sur Twitter. Gad Bordeaux, là, qui fait pas mal d'open source, il a sorti une nouvelle librairie de fetching pour Vue, là. Et j'ai oublié. Bah, ça sera dans le prochain épisode.
On en parlera dans le prochain épisode. Top.
Ouais, c'est ça.
Et toujours Nitro, évolution de Nitro. Nitro, c'est la partie back-end. Ouais. Donc, c'est la partie vraiment serveur de Nuxt. Et pour le coup, on tend vers du ESM only. Et donc, grosse mise à jour de toutes ces librairies grâce à tout l'écosystème NJS. Si vous êtes développeur JS, je vous invite à aller découvrir toutes ces collections de tous les petits outils en fait, qui nous permettent d'utiliser par exemple l'URL ou des cookies ou le chemin de fichiers ou des choses comme ça. Tout est open source et disponible directement dans cet écosystème NGS. Top, topissime. Yes. Allez, on repart un petit peu sur ces bases de données, un peu dans le même acabit que Electric. En même temps, c'est un peu écrit par la même société. Un outil qui s'appelle PG Lite.
Bah, c'est une base de données Postgres dans ton browser et qui tourne sur WASM.
Ok.
Voilà, tout est dit.
Top. Et, par contre, t'as toutes les fonctionnalités de Postgres ou c'est un truc un peu par définition peu plus shrink et un peu plus léger et t'as pas toutes les fonctionnalités quoi, c'est-à-dire est-ce que tu peux
utiliser support des trucs,
des fonctions, des choses comme ça.
Bah regarde, remonte un petit poil juste en dessous là, attends, c'est marqué WASM Postgres. Donc, c'est 3 mégabits, GZIP et support for mini Postgres extension. Tu vois, ils ont PG Vector. Tu peux utiliser PG Vector dedans. Donc, oui, ça supporte des extensions, tout ça. Après, il n'y a peut-être pas tout non plus, parce que bah, du coup, à un moment donné.
Ah, mais les extensions, c'est déjà hyper avancé.
Et non. Ouais, c'est clair.
Parce qu'une fonction dans Postgres, voilà, déjà, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux custom déjà beaucoup de choses. Et donc, toujours dans ce même délire de synchronisation locale. En tout cas, là, tout est dans le navigateur grâce au module WASM, quoi. Top.
Bah, tu vois, tu peux très bien en parler de Lynx juste avant. Bah, si tu peux. Ah ouais, mais est-ce que WASM va tourner dans Lynx? À voir. Je sais pas.
Ah.
À voir. Mais ça serait cool d'avoir une PG Lite dans ton application native Lynx, etc. Donc, là.
Et ouais, mais de toute façon, après, il y a peut-être un espèce de fusion qui va se faire de tous ces nouveaux outils, en fait. Et donc, ça nous force, en fait, une fois de plus, à repenser le paradigme, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce qu'on a à notre... enfin, qu'est-ce qu'on a sur la table en fait pour écrire la fonctionnalité qu'on veut, quoi. Et souvent, on dit, voilà, je vais faire mon appli... en programmation objet comme ça, je vais faire une API tout, alors que possiblement il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres manières de faire des nouveaux paradigmes qui nous permettent en fait d'aller chercher beaucoup plus de perf ou de rapidité, de synchroniser du real time, des choses comme ça. Super intéressant et super excitant aussi parce que notre manière de faire en fait potentiellement elle peut vite changer, elle peut vite évoluer vers autre chose, quoi.
Ouais, puis c'est surtout que c'est beaucoup. Putain, aujourd'hui, c'est vachement plus facile de faire des choses avancées.
C'est pas
qu'on est vieux, mais à une époque, c'était compliqué, des choses qui n'étaient pas possibles. Et là, tu vois, aujourd'hui, tu peux avoir une base de données dans ton application et tout. C'est quand même fou, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi, mais quand tu discutes avec des jeunes qui débutent, et pour le coup, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, c'est qu'il y a aussi l'effet inverse. C'est-à-dire que quand tu es junior, en fait, il y a tellement de choses. que tu sais pas par quoi commencer en fait. Il y a tellement de solutions, tu vois, de dire non mais en fait ta base de données tu la mets en local, non mais Noé tu la mets dans ton navigateur avec du Wasm, mais non mais pas du tout, tu la mets sur du cloud, maintenant tu t'en fous, t'as partout une connexion, tu vois. Et en fait beaucoup de juniors disent non mais en fait il y a tellement plein de manières de faire que au final on sait pas comment, on sait pas choisir, tu vois, et et c'est hyper difficile. Et donc pour le coup ouais, tu fais un peu l'ancien, tu vois, en mode ouais non mais moi ouais, de mon temps c'était super dur tout, tu vois. Et au final je pense que il faut
trop de choix, tu le choisis.
Exactement. En fait on est dans un confort technologique où à notre service on a multiples solutions. Par contre, qu'est-ce qu'on va choisir ? La pertinence. Là, on revient sur des sujets qu'on aborde souvent dans sur le podcast. C'est voilà, comment on choisit une librairie, comment on choisit une techno, quelle est la maturité de la techno, l'équipe. Voilà, il y a plein de facteurs qui vont faire que on va choisir une solution particulière. Mais avant
c'est
le
pour
choix,
ça qu'on écoute,
c'est quand même vachement bien.
C'est pour ça qu'on écoute Double Slash.
Exactement.
C'est pour faire les bons choix.
Exactement. Allez, on repasse un petit peu sur des choses un petit peu plus légères et colorées, ouais, on va dire. si vous êtes adepte de Tailwind et si vous avez déjà franchi le pas de passer sur des grids pour organiser vos composants, vos layouts, ou en tout cas pour structurer votre HTML, bah peut-être que vous avez été confronté au fait que Tailwind plus Grid, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Et c'est là où ce super outil vient à notre aide, où en fait on vient rentrer notre grille et ça va automatiquement en fait nous mettre en avant en fait le HTML qui va être directement
va être généré dessous.
Qui va être généré dessous parce que sur Tailwind, il y a ces concepts de grid, oui. Mais il y a aussi la spécificité Tailwind qui peut être un petit peu plus compliquée avec les spans. Voilà, c'est pas toujours facile quand on commence.
Ouais. Mais cet outil est sympa. Alors, je rends à César... c'est Régis Richard qui en a parlé. Donc, je lui ai piqué le lien et j'ai dit j'en en parlera dans les news. Et donc, l'outil est plutôt pas mal. En fait, tu sais, parce que moi, je pousse mes clients à faire des bento, donc ce style de ouais, choses là qu'on voit à l'écran, plutôt que de faire des carousels parce qu'ils me cassent les pieds avec leurs carousels en mettre partout. Je reste poli.
Oui,
et je leur dis mais faites des bento, c'est vachement plus cool. En plus, c'est plus tendance en design en ce moment. Et voilà, donc t'as un outil là qui te permet un peu de faire les bento avec du Tailwind, tout ça.
Classe. Voilà. Et pour le coup, c'est un peu dans l'air du temps les bento complètement.
Ah mais complètement.
Après, il faut convaincre le designer ou en tout cas.
Ah, c'est pas gagné.
Non mais écoute, toi t'es dev, tu connais pas. Hop hop hop, je critique,
ouais,
c'est pas
bah,
bien, c'est
vois,
pas bien.
Je vais proposer des stages d'intégration aux designers pour leur faire voir comment ça s'intègre sur les mobiles, leur design. Je commence à péter des câbles en ce moment. Donc.
Et oui. Ouais. Mais en tout cas, un super bel outil qui nous permet en fait, de générer des grids des bento assez facilement. Ouais. Et donc, c'est hyper visuel et on a notre code qui est automatiquement généré. On ne peut pas faire un épisode sans parler de Next, Patrick, t'es d'accord ?
En bien ou en mal, mais on en parle.
Voilà. Je sens une petite pointe d'amertume dans
ta voix. Non, c'est pas moi. En ce moment, ils en prennent plein la tête. Ils se font beaucoup attaquer, mais c'est normal. Ceux qui sont leaders sont toujours plus attaqués que les autres. Mais
eh ben ouais. Voilà. C'est sûr. En tout cas, petit article qui est écrit par Cal Gill, qui est un software engineer, très bien, et qui met en avant, en tout cas, Next.js contre TanStack, on va dire, qui est l'écosystème un peu le nouveau le
c'est
nouveau
le
truc c'est le nouveau challenger, exactement, merci, ouais. c'est exactement ça. Grosse hype sur TanStack, en tout cas beaucoup de gens font le switch Et là, il nous met en avant, en fait, un comparatif très clair sur les deux manières et sur les deux approches, pourquoi ça peut changer. Petit article sympa si vous êtes
Ouais.
adepte de lecture
D'ailleurs,
anglaise, évidemment.
ça me fait penser, j'ai oublié de le mettre dans les news, il y a une petite faille de sécurité sur Next.js là depuis 2-3 jours et il faudra. Donc il y a des versions qui vont corriger. Donc si vous êtes sur Next.js, essayez de vous informer là-dessus parce qu'il faut. Enfin, en envoyant un header, un certain header, tu peux injecter un Next.js. Donc attention à ça, faites. Enfin voilà, allez voir sur la doc Next. Mais.
On mettra peut-être le lien a
Ouais.
posteriori
Ouais, je rajouterai
dans.
peut-être après. Ouais.
Exactement. On mettra le lien sur l'évolution. Yes. Et pareil, tu parles de sécurité. Et là, un petit article aussi où on vient aborder, en tout cas, l'auteur vient nous démontrer les 10 plus grosses erreurs que font les développeurs PHP. En 2025, qui peuvent complètement casser leur application.
Ouais.
Et donc, on les prend une par une et ils nous expliquent comment, en fait, éviter de faire ces erreurs-là. Est-ce que c'est pas un peu ces bateaux ou ces niveaux un petit peu plus?
Non, c'est intéressant parce que c'est toujours intéressant de rappeler un peu les bonnes pratiques qu'on a tendance à procrastiner ou des choses comme ça. Ouais, bon. Mais bon, voilà, nettoyer les données avant de les insérer en base de données, etc. Voilà. Y a plein d'exemples comme ça qui sont assez, oui, basiques, c'est la base, mais c'est toujours intéressant de les rappeler, quoi, en fait.
Ouais.
Gérer les erreurs et tout ça, les exceptions. C'est des trucs à la con, que ton application ne marche pas et tu sais pas pourquoi, parce que tu n'as pas levé une exception, parce que bah, le JSON il marchait pas, ou il n'était pas là, ou il n'était pas présent, et tu cherches pourquoi ça ne marche pas, alors qu'il suffit de lever une exception. Un try-catch, voilà, les versions de PHP, attention à la connexion à la database, enfin voilà, il y a plein de voilà, des bonnes pratiques. Voilà.
D'accord. Et alors, moi, pour le coup, j'ai aucun œil critique là-dessus, parce que
Ouais.
je ne fais pas de PHP, donc je pourrais pas dire si c'est un niveau, on va dire, basique ou c'est déjà un niveau assez avancé, quoi.
Non, c'est vraiment des rappels, voilà. Et qui peuvent être très intéressants pour des juniors comme pour des seniors.
Parce
Parce que
que
par flemme, des
souvent,
fois, on ne fait pas les choses.
exactement,
Voilà.
exactement, par souci de rapidité. On dit ouais, non, mais je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. Et au final, tu le fais pas et
On
tu
fait jamais.
pousses en prod. Et bien sûr, bien sûr. Donc, autant apprendre tout de suite. Et des petits guidelines sont toujours les bienvenus. Amateurs de PHP, on vous invite à lire cet article. Super intéressant. Et on bascule dans notre rubrique IA avec ce nouvel acronyme qu'on trouve partout et qu'on voit partout, qui est le MCP. Ça y est, le mot est lâché, on devait en parler dans.
Obligé.
Bah oui, on n'a vraiment pas le choix. Donc ce MCP, ce Model Context Protocol. Alors clairement, qu'est-ce que ça va nous amener en fait ces MCP et pourquoi c'est annoncé comme la nouvelle révolution?
Bah en fait, le MCP, ça a été lancé en novembre, je crois, 2024. Et moi, j'avais testé dès le début, j'en avais parlé, mais ça n'intéressait personne, c'était marrant. Et à la base, c'était essayé avec Cloud Desktop. Donc, tu faisais un MCP serveur sur ton ordi, et puis après, tu t'installais Cloud Desktop, et tu branchais ton MCP serveur à Cloud Desktop, et puis tu lui faisais faire des choses. Mais moi, j'ai vite atteint les limites parce qu'il n'arrivait pas à ouvrir le fichier de plus de X mégas, je sais plus. Enfin, voilà, j'ai dit, mais c'est quoi cette merde? Enfin, j'avais arrêté. J'avais laissé tomber assez rapidement. Et puis là, ça explose complètement depuis peut-être 15 jours, 3 semaines, voilà, depuis février, on va dire. Et ben, pourquoi ça explose? Ben, tout simplement parce qu'en fait, avec Cursor, avec Windsurf, etc., eh ben, ces éditeurs de code sont devenus des MCP clients sur lesquels tu peux brancher des MCP serveurs. Et donc, ça veut dire que via ton éditeur de code, tu peux demander à ton IA qui est dedans, donc ça va être Claude ou n'importe, d'exécuter des choses via ce protocole en fait. Donc, qu'est-ce que c'est le MCP? C'est un protocole, c'est une sorte d'API avec voilà qui est c'est écrit comment on doit voilà faire l'API. Et donc maintenant, il y a plein de MCP serveurs d'API, ça peut être GitHub, plein de choses. Et ton IA va utiliser ce MCP serveur pour exécuter des choses, en fait, via le protocole.
Ok, donc est-ce qu'on pourrait dire qu'en fait, ce MCP, c'est une sorte de substitut d'API, c'est-à-dire que ça va aller... Pareil, on va prendre l'exemple d'une base de données. Au lieu, en fait, de coder tous les endpoints ou de c'est coder la requête SQL, c'est le MCP serveur dédié spécifique à Postgres qui va s'occuper en fait de traduire ta demande que tu as écrite de manière littérale ou via ton prompt ou via ton instruction. Et lui, en fait, il va interpréter ça et il va aller exécuter la requête que tu as demandée spécifiquement dans Postgres. Et c'est pour ça qu'il y a une explosion de MCP, parce qu'on va avoir un MCP pour Google Calendar, un MCP pour Postgres, pour Supabase, et voilà, on va dire pour tous ces services-là.
Pour Airtable, pour plein de trucs, en fait.
Exactement. Et donc, plein de trucs. Ok. Et donc, en fait, on pourrait dire que c'est un peu l'API des LLM. On pourrait dire que voilà, c'est le moyen de connecter, en fait, directement et d'utiliser les fonctionnalités au sein de notre code, beaucoup plus rapide, quoi. Hyper facile.
C'est ça. Et en plus, tu l'ajoutes assez facilement dans ton éditeur, que ce soit Cursor. Enfin, Cursor, moi, je n'utilise pas, mais moi, en ce moment, je suis sur Windsurf.
Tu
le rajoutes en quelques... Ouais, je teste Windsurf. Et voilà. Alors moi, j'ai une mauvaise expérience. J'ai mis un MCP serveur GitHub l'autre jour dessus. Et puis, je lui ai dit, fais-moi une release, une version là, de 1.0.2 de tel machin, tel repo, machin, bidule. Et je sais pas ce qu'il a foutu. Il m'a enlevé du code. Il m'a changé du code. Et puis, en plus, il m'a fait une release. Mais c'était juste un tag. Il m'a pas fini le truc. Bon, bref, j'ai dû revenir en arrière, machin, bidule. Donc, c'était pas très concluant.
Ouais.
Mais voilà.
Après
je pense que je m'y prends mal, peut-être.
Après, est-ce qu'en fait, on donne un peu les clés de la maison, en fait, si on donne les clés de notre base de données à ce MCP serveur Postgres, par exemple, est-ce qu'on lui donne pas les clés et potentiellement, si la requête est mal faite ou si ce code MCP, là, il est plus ou moins bienveillant, malveillant. Est-ce qu'en fait, on n'a pas un peu des problèmes de sécurité à utiliser ce type de service, en fait, de MCP serveur, justement?
Ça fait un peu peur parce que tu te dis que... Ouais, c'est un peu... Enfin, les gars qui s'occupent de la sécurité dans des sociétés où ils ont des développeurs, ils vont vite essayer de... Enfin, il faut vite s'y intéresser parce que les devs peuvent installer plusieurs MCP serveurs sur un éditeur et on peut potentiellement se retrouver avec du code vérolé ou quoi dans un MCP serveur. Et donner des clés API et donner l'accès à la base de données ou n'importe quoi. Et là, il y a potentiellement des failles de sécurité parce qu'on est sur un écosystème qui est un peu à la plugin extension et du coup, ça devient vite... ça peut être utilisé à des fins malveillantes. Donc, je pense qu'il faut faire super gaffe à ce qu'on installe déjà.
Ouais. Et puis, pour le coup, après, est-ce qu'il n'y aura pas aussi tout un écosystème qui va se développer sur des MCP, on va dire, officiels? Tu vois, c'est par exemple, là, on est chez Neon, donc il y a un service de cloud qui va gérer de la base de données hyper rapide, qui va scaler tout ça automatiquement. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à utiliser le MCP serveur qui est officiel ou accrédité par Neon, parce que sinon en fait potentiellement il y a une espèce de fork qui est fait et on récupère des tokens d'accès ou des choses comme ça et là par contre je pense qu'on a un vrai sujet en termes de sécurité où c'est super warning quoi, parce que en plus on donne les accès mais c'est pas que en lecture là on va exécuter du code, donc potentiellement on peut vraiment pas tout péter mais presque en fait
c'est clair. Attention à ce que vous installez parce que là il y a des listes Awesome, MCP, machin, il y en a plusieurs et c'est vrai que potentiellement dans une liste de MCP serveurs on peut très bien injecter un MCP serveur vérolé et puis après tu fais ce que tu veux quoi, tu récupère les requêtes et tout. Enfin, tu peux facilement détourner le truc. Quoi.
Donc, et de, Exactement. Grosse, gros, gros. Méfiat, méfiat. Mais en tout cas, on a mis le fameux Awesome.
Ouais, il y en a plusieurs.
Tous les repos, en fait, Awesome, viennent faire une énorme collection de toutes les ressources qui sont spécifiques au MCP. Et en tout cas, celui-ci, c'est MCP Server.
Mais après, tu vois, j'ai envie de dire, toi, je t'expliquais mon histoire de GitHub l'autre jour, mais en fait, c'est long quand même. Enfin, j'ai trouvé ça assez long et je me suis dit, mais attends, c'est le temps que ça le fasse, en fait, j'aurais pu déjà faire ma release, machin. Donc... Enfin, voilà. En fait, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas too much un peu de. C'est un peu hype en ce moment, les MCP, mais est-ce que vraiment, sur certains trucs, t'es obligé de passer par ça et pas tirer pas plus vite en le faisant toi-même à la mano? Ça te prend 5 minutes au lieu de 10 minutes avec le serveur. Après, je me suis posé la question l'autre jour. Voilà.
Est-ce que c'est Scalive et surtout, qui va l'exécuter? C'est surtout ça, c'est que si tu donnes ton applicatif dans la main en fait, de quelqu'un qui n'est pas tech, potentiellement, lui, il ne va pas pouvoir le faire. Tu vois? Et donc, en fait, moi, ce que je vois surtout, c'est que ça donne accès à des non-devs, en fait, de pouvoir récupérer des données de la base de données sans pour autant... passer par un dev pour récupérer ces types de données, tu vois, pour faire de l'agrégation à un mec au marketing, bah en fait, tu lui donnes accès en fait, via ce MCP-là. Lui, il fait sa requête. Vas-y, donne-moi la somme de tout ça, de tous les articles qu'on a vendus au mois de juin 2024. Et d'un autre côté, tu me les compares avec 23 et tu me le sors sur un tableau. En fait, toi, tu vas le faire une fois, mais lui, il va peut-être le faire plein de fois. Et demain, il va vouloir rajouter une option. Il lui suffit, en fait, de faire sa phrase correctement. Et potentiellement, le MCP va être assez intelligent pour pouvoir sortir et extraire les données, quoi. C'est surtout ça que je vois, moi.
Non, mais t'as raison, c'est l'exemple que tu donnes, c'est vrai que t'as raison parce qu'en plus, j'ai vu une vidéo où le mec, il avait branché sur un MCP Airtable. Donc, il avait fait un faux Airtable, un tableau avec les dépenses chez Amazon, machin, bidule. Et après, il posait des questions à son IA en disant « Combien j'ai dépensé ce mois-ci en janvier, combien j'ai dépensé chez Amazon et combien j'ai dépensé chez machin ?» Et l'IA allait chercher les colonnes, tout ça, et sortait la somme et tout ça. Donc, oui, effectivement, c'est vrai que pour quelqu'un de non technique, ça peut lui apporter des réponses.
Intéressant.
Il y a sûrement plein de possibilités, mais là, c'est vraiment, faut quand même savoir que le protocole est super récent. Hein. Il a 4 mois, donc... Ouais, on est encore qu'au début, quoi.
Ça reste encore super, super early stage, quoi.
Mmh. Ouais, yes. Voilà.
Ça marche. Allez, on reste dans cet univers un peu IA tech avec Klein, Kleiny, je ne sais pas comment, Kleiny.
On n'a plus d'écran.
Pardon.
voilà.
On revient sur Klein, on va dire.
Klein.
Qui est Klein. Un collaboratif AI codeur. Ok, ça va nous permettre de faire de travailler de manière collaborative.
C'est un assistant. Hein.
On a tous les buzzwords. On a IA, on a codé, on a collaboratif, on a open source. Full extensible.
1 million d'install.
Et surtout, qui va donner beaucoup d'impact pour les développeurs. Voilà, le marketing est bon déjà, aucun problème. On a tout ce qu'il faut.
Ouais, puis t'as un mec qui bosse là-bas.
Ouais,
il est chouette le truc, j'aime bien.
Ouais, joli. Clairement, qu'est-ce que ça fait?
En fait, ça, pour l'instant, ça marche que sur VS Code, si je me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Hein. Et ça transforme tout simplement ton VS Code en Windsurf ou Cursor dans le mode assistant. Donc voilà, tu peux lui poser des questions et il prend la main sur ton code, il va rajouter, sans plus changer le code, etc. Donc on est vraiment sur un mode, c'est une extension qui est assez avancée et qui évidemment a des MCP serveurs qui peuvent se brancher dessus.
Ok.
La suite, on vient d'en parler. Donc, c'est vrai que, et du coup, sur le site, tu as carrément un onglet MCP serveur avec toute une liste d'MCP serveurs. Tu peux chercher les serveurs. Donc, voilà, on en a sous les yeux là, Airtable, Google Calendar, Superbase, etc. Donc, tu peux te connecter et puis demander à ton IA de faire des choses, de donner des infos, etc.
Nice. Ok, top.
Bien simple. Bon.
Ok. Et donc, ça s'installe directement dans VS Code, quoi.
C'est ça. Ouais.
Nice.
Ça s'installe direct dans VS Code. Par contre, au niveau tarif, pour l'instant, je n'ai pas vu d'onglet pricing ou un truc comme ça. Donc,
Ah, c'est gratos.
Je crois que c'est open source sur... quand même payer les gens, mais je sais pas. Okay. À un moment donné.
Ou en tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé leur business model, donc pour l'instant, c'est gratos. Ouais. Quoi. Ok. Y a des jolies icônes. Ça paraît pas mal à tester, pour le coup. Parce que là, je pense que la boîte ne va pas s'amuser à faire des intégrations de services avec des plugins plus ou moins vérolés. Quoi. Donc, potentiellement... Passer par ce genre d'écosystème, ça vient aussi assainir un peu tout.
Peut-être leur business model, c'est de toucher de l'argent par Airtable ou des trucs comme ça quand ils ont des plugins. Je ne sais pas, peut-être. Ils créent des MCP serveurs pour les marques. J'en sais rien en fait, ce que c'est leur business model, mais il y en a certainement un.
Mais en tout cas, tu n'arrives pas à le voir et on n'arrive pas à le voir et on n'arrive pas à dire ok, où est-ce qu'on met la carte bleue ou à quel moment je vais me faire soit assassiner.
Oui, parce que tu vois, c'est open source. Il y a marqué quoi en bas? Je ne sais plus. Open source. C'est un peu plus bas, je crois. Où il t'explique comment. Fully open source, tu vois.
Ouais, mais c'est tout quoi.
Comment tu commences? Tu mets VS Code, ils te disent. Attends, descends un peu. Hop, donc installe VS Code, setup client et create.
Et après tu crées ton compte, mais pour l'instant en tout cas il y a pas de business model vraiment.
Non, il y a pas
clairement,
de
clairement établi quoi. Tester. Et puis à un moment donné, si ça passe payant, ça passera payant et puis.
Faudra payer. Et si c'est justifié, faudra payer.
Et c'est exactement ça. Yes. Allez, on reste dans cet univers IA. Et là, pour le coup, c'est pour un petit peu plus les développeurs un peu plus design, 2D, 3D, qui veulent faire de la 3D directement, mais plus ou moins sans coder. C'est quoi ? C'est une sorte de plugin pour faire de la 3D directement ?
En fait, ça t'ajoute un visual workspace. Dans ton éditeur de code, donc ça serait pour Cursor et VS Code, je crois.
Oui.
Et qui te permet de développer. Donc après, tu fais avec l'IA, tout ça, tu vas lui dire j'en sais rien ce que tu peux lui dire parce que je fais pas de 3D, mais tu te demandes un truc en 3D et il va te faire un objet 3D avec un visionneur, en fait. Et après, tu vas pouvoir l'incrémenter, tout ça. Donc oui, c'est ça, c'est un environnement pour développer des projets avec de la 3D, de la 2D. Donc voilà, le même système un peu que Client, tu le rajoutes à ton éditeur de code et tu vas pouvoir interagir avec l'assistant pour développer un truc en 3D.
Nice.
Bien. On n'en finit plus. On va en avoir. Je pense qu'à chaque épisode, maintenant, on va parler d'extensions, IA, tout ça, machin.
C'est un peu la suite logique des choses. Ouais. On reste toujours dans cet univers IA. On peut dire qu'on est tous les deux plutôt fans de Melisearch, qui est une solution à la base.
J'ai pas eu de casquette, de t-shirt.
pour le coup, c'est une solution qui nous permet de faire un moteur de recherche au sein de nos propres data. C'est clairement un concurrent open source à Algolia, mais c'est open source pour le coup, c'est Frenchy et ils annoncent cette semaine, alors on est en plein cœur de cette semaine de lancement. Marketingement, c'est un peu la tendance, on fait non plus une journée de lancement, mais on fait une semaine où chaque jour, en fait, on sort des fonctionnalités. Et là, en fait, ils ont annoncé de manière officielle, donc c'est disponible, on va dire, nativement, la fusion du sémantique et du full text. Donc full text, on va aller chercher les datas à l'intérieur. La sémantique, on va utiliser en fait la représentation vectorielle de l'image, enfin de l'objet en tout cas, de toutes les données pour aller refaire sortir en fait cette recherche. Et donc la grosse nouveauté qu'ils mettent en avant, c'est justement cette fonction hybride où on va en fait pondérer entre du full text, donc des data pures, et de la représentation vectorielle. Et donc, c'est ce qu'ils appellent l'hybride search. Et c'est ce qu'ils annoncent cette semaine sur la première journée.
Ouais, c'est ça. Tu vas mettre le curseur, en fait. C'est des paramètres que tu rajoutes pour mettre le curseur, si tu veux. En fait, c'est de 0 à 1, et plus tu vas vers le 1, et plus tu auras du vectoriel, et plus tu... Voilà, 0,5, tu es au milieu, 0,7, tu as plus de vectoriel que de texte, voilà. Ça marche comme ça. C'est yes. Pas mal.
Carrément.
Maintenant, c'est par défaut, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste avec quelques paramètres, ça fonctionne.
Et... qui dit sémantique et qui dit vecteur dit obligatoirement un modèle. Et donc, ce modèle-là, il faut prendre nos données et il faut les injecter dans un modèle pour qu'on sorte cette représentation vectorielle. Et donc, oui. Là, ça s'appelle des embedders. Donc, on va prendre l'objet, on va l'embedder pour avoir notre représentation vectorielle qui n'est trop qu'une succession, un énorme tableau avec plein de points. Ouais. Et donc là, on peut en fait utiliser OpenAI, Hugging Face, mais aussi Ollama pour faire en fait toutes ces générations en local. Et donc ça, c'est super intéressant via en fait via la REST API et surtout document template, au lieu de lui injecter en fait toutes les données brutes en un JSON un peu sans valeur, on va pouvoir lui donner un template où en fait on vient écrire le prompt et à l'intérieur de ce prompt en fait on va injecter toutes les données, ce qui lui donne beaucoup beaucoup plus de contexte et donc intéressant. Par exemple, c'est un produit de la catégorie babam, le nom de la catégorie, le nom du produit s'appelle bam, il est édité par la marque bim et il a une description produit bam, et en fait ce genre d'infos en fait va vraiment venir augmenter la qualité de ta recherche sémantique. Top.
Ça se passe. On est au deuxième jour, donc il y aura plus de, enfin voilà, tous les jours il y a une petite annonce. C'est assez rapide, c'est 5 minutes les vidéos en général, 3-4 minutes. Enfin, ouais.
Propre. Mmh. Super outil, Melisearch, super outil. Évidemment, Vercel met à jour son AI SDK pour parler de...
de reasoning, modèle. Tu vois, je change. Non, ils ont intégré les MCP clients, évidemment. Donc, tu peux utiliser des tools MCP, des serveurs, voilà. Et les reasoning modèles aussi, qu'on a vu arriver, qu'on voit arriver petit à petit. Et donc, c'est un petit peu différent pour les interroger, tout ça. Voilà. Donc, l'API se met à jour. API qui est plutôt bien faite, assez simple à utiliser. Et voilà.
Top.
Sous forme de module NPM, tout ça. Donc, voilà, tu n'es pas obligé d'être chez Vercel pour l'utiliser. C'est vraiment des packages que tu utilises, que tu branches sur les différents modèles providers. Et puis voilà.
Et pour le coup, ils ont réussi à uniformiser tout ça, quoi. Et c'est plutôt confort, quoi. Parce que si tu veux utiliser un autre modèle, tu as juste à changer un paramètre, mais tu n'as pas à tout réécrire ton code. Tout. Donc, c'est très, très confortable.
C'est vachement bien fait. Ouais.
Allez, là, tu nous as fait un petit gist où t'es venu utiliser une nouvelle fonctionnalité de OpenAI.
Ouais, alors OpenAI a mis à jour, en fait, ils ont mis à jour un petit peu leur API pour créer des agents. Alors maintenant, on parle beaucoup d'agents, d'agentiques, etc. Donc, on est en train de changer les noms. On ne parle plus de chat ou des trucs comme ça. On parle d'agents beaucoup. Et donc, ils ont mis à jour toute leur API et ils ont sorti notamment une nouvelle Response API. Elle s'appelle comme ça. Hein, c'est un peu bizarre, mais ce qui te permet en fait d'utiliser dans ces appels des outils en fait. Et donc, il y a différents outils qui sont par défaut. Mais après, je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, on a notamment celui-là, le Web Search Preview, en fait, que tu vas utiliser en tant que tools quand tu fais ton appel. Et tu vas lui donner... là, moi, je vais lui donner les informations de ma location. Et donc, je lui ai demandé une question, tout simplement, quel est le prix moyen d'un appartement à Paris. Et il a été cherché sur le net, en fait. Donc, il utilise l'outil d'aller chercher sur le net en plus de générer la réponse. Et il m'a sorti des liens, etc. Et tout ça, voilà, le code est juste sous vos yeux, là. C'est vraiment juste ce code. Et ça m'a sorti la réponse qui est en bas avec les liens, etc. Ouais, donc, ça lui donne la possibilité d'utiliser des outils, d'aller chercher sur le web. On peut aller chercher dans des fichiers, etc. Donc, c'est pas mal.
Ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit que, en fait, on est à la fusion entre des modèles qui ont été entraînés avec une base de données, avec de la data. Sauf que le modèle, potentiellement, lui, il va ne plus être mis à jour au moment où il arrête d'être entraîné. Les données ne sont plus persistantes. Enfin, c'est fini. Et là, en fait, on est en train d'assister à une sorte de fusion entre la recherche et l'IA avec le modèle, quoi. Et les deux sont en train de converger. Super intéressant, super intéressant.
Ouais, c'est pas mal. Donc, ils vont la déployer petit à petit. Je crois que jusqu'à mi-2026, elle va encore évoluer, tout ça. Mais voilà, c'est une première version. Et ça rejoint un petit peu. Voilà, il y a l'article qui explique un peu tout. J'en ai pas entendu beaucoup parler encore. Mais je pense qu'on entend de plus en plus parler. Mais voilà, il y a toute cette API qui permet de faire des agents, etc. Qui ressemble un petit peu. On en parlera dans l'épisode sur les RAG, là, de Mastra, là, AI. On avait déjà parlé, mais c'est pareil, il y a une notion de tools qu'on va rajouter pour qu'il aille faire des requêtes, etc. Donc, c'est un peu le même principe, sauf que là, tu utilises le système d'OpenAI et ses modèles. Donc, voilà. Ils ont tout intérêt à avoir une API qui est quand même assez bien faite pour qu'on continue à utiliser leur modèle, quoi.
On va vers des choses un petit peu plus sympas, quoi. Une fusion entre, au lieu d'avoir le search classique et en opposition avec les LLM, on a une sorte d'hybride qui risque d'être beaucoup plus sympa. Une uniformisation aussi des API, des SDK pour appeler et pour nous, en fait, construire des agents, voilà, plein de solutions qui vont utiliser en fait tout cet écosystème pour que nous on puisse les plugger et les utiliser dans nos applicatifs. C'est top.
Ouais, c'est pas mal.
Nickel, Patrick. Écoute, on en reste là pour cet épisode. Ça te va ?
Ouais, ça roule.
Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Un grand merci pour les pouces, les commentaires et pour propager la bonne parole de Double Slash auprès de tous vos collègues. Et on vous dit à très très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Ciao.